à Washington.
Anastasie Tudiech avec vous, il est 18h30 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, au Cameroun, l'armée se défend des accusations d'exaction pendant ses opérations contre les séparatistes anglophones. En République démocratique du Congo, l'Église catholique persiste et signe, le président Joseph Kabila doit partir. Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 ont officiellement débuté ce vendredi à Pyeongchang, sous le signe de la paix. Et ici aux États-Unis, le Congrès américain est enfin arrivé à un accord budgétaire crucial promulgué par le président Trump. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. L'armée camerounaise s'est défendue des accusations d'exaction lors d'opérations contre les séparatistes anglophones, alors que l'Union européenne a estimé essentiel, je cite, « un usage proportionné de la force ». Fin de citation. Nathalie Barge.
Nous sommes victimes de la désinformation et des fake news, a déclaré le colonel Didier Badjak, porte-parole de l'armée, précisant qu'hier, un militaire a été tué à Bamenda. Sa mort porte à 23 le nombre d'éléments des forces de sécurité tués par des séparatistes présumés. Le colonel a invité les partenaires du Cameroun à avoir un regard impartial, affirmant que l'armée camerounaise est professionnelle, qu'elle respecte les droits humains et que les rafles leur permettent de trouver des armes. Selon différentes sources, au moins 4 civils ont été tués début février par les forces de sécurité dans le nord-ouest anglophone après la mort de 2 gendarmes. Des témoins ont aussi fait état de maisons détruites et de biens brûlés. En réaction au fort déploiement de troupes dans les régions anglophones, la cause indépendantiste a pris du poids et la crise s'est muée en conflit armé de basse intensité avec des attaques isolées contre les symboles de l'État camerounais.
Nathalie Barge. Les autorités rwandaises ont refusé de recevoir une délégation de députés israéliens d'opposition. Ces derniers voulaient évoquer la question des milliers de migrants africains menacés d'expulsion par Israël, essentiellement des Érythréens et des Soudanais. Le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungere, a expliqué que cette délégation n'avait pas été reçue car le Rwanda n'a pas à s'immiscer dans les affaires d'Israël. Les organisations d'aide aux migrants accusent Israël d'avoir signé des accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les migrants expulsés, ce qu'ont démenti les deux pays. En République démocratique du Congo, diplomates, opposants et activistes ont pris part à une célébration présidée par l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo, dans la cathédrale Notre-Dame de la capitale congolaise. La messe rendait hommage aux victimes de la répression d'une marche organisée le 21 janvier à l'appel d'un collectif proche de l'Église catholique, le Comité laïque de coordination, le CLC. La marche des chrétiens ne s'arrêtera pas. Nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l'émergence d'un Congo nouveau où l'homme qu'il faut sera à la place qu'il faut, a déclaré dans son sermon l'abbé François Louyéyé sous les applaudissements. Le Tchad ne connaîtra pas de nouvelles mesures d'austérité cette année, c'est ce qu'a promis le ministre des Finances tchadien. Le gouvernement a réduit en janvier de 50% les primes ou indemnités des fonctionnaires, déjà réduites de 50% en 2016, entraînant une forte grogne sociale marquée par une grève générale du service public et des manifestations systématiquement interdites par les autorités. L'impôt sur le revenu a aussi augmenté début 2018, mais les plus petits revenus sont désormais exonérés d'impôts, a souligné Monsieur Sabre Fadoul. En Égypte, l'armée a lancé aujourd'hui une vaste opération antiterroriste dans plusieurs régions du pays, dont la péninsule du Sinaï, où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. Baptisée Sinaï 2018, l'opération, lancée à un mois et demi de l'élection présidentielle, mobilise notamment l'aviation et la marine et a lieu dans le Sinaï, dans des régions du delta du Nil et dans le désert occidental frontalier de la Libye. La Libye, où une personne a été tuée et 62 blessés, dont certaines grièvement, dans un attentat dans une mosquée à Benghazi. 2 bombes ont explosé au début de la grande prière hebdomadaire dans l'enceinte d'une mosquée. Un engin explosif était placé dans un cercueil dans la cour de la mosquée et l'autre à l'entrée. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais illustre l'instabilité persistante dans cette région, contrôlée par les forces du maréchal controversé Khalifa Haftar, hostile au gouvernement en place à Tripoli et reconnu par la communauté internationale.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le président américain Donald Trump a promulgué l'accord budgétaire entre républicains et démocrates au Congrès. Ceci a mis fin au shutdown, la fermeture du gouvernement fédéral qui a duré plus de 8 heures. Eric Manirakiza.
Le texte prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'administration fédérale. Ce budget tant attendu est enfin mis sur les rails et permet aux élus de transformer cet accord budgétaire ponctuel en proposition de loi pérenne. Monsieur Trump a maintenant la possibilité de tenir l'une de ses promesses de campagne, le gonflement du budget militaire. Les démocrates ont pour leur part obtenu une hausse comparable pour les dépenses non militaires. C'est notamment la lutte contre les drogues, la couverture maladie des enfants pauvres, les investissements dans les infrastructures et une aide de 90 milliards de dollars pour les États ravagés par les ouragans et incendies en 2017. Cette hausse globale du budget pourrait atteindre 300 milliards de dollars sur les deux prochaines années. Certains républicains l'ont combattue, estimant qu'elle va considérablement augmenter la dette du pays. Le sénateur Rand Paul a dénoncé l'hypocrisie de ses collègues républicains qui avaient refusé le relèvement du plafond de la dette demandé par Barack Obama. La régularisation à terme des centaines de milliers de clandestins, les Dreamers, rêveurs, n'est pas encore résolue. Toutefois, leur avenir reste au cœur de la balance politique depuis plusieurs semaines.
Les raids du régime syrien ont repris de plus belle aujourd'hui sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, au cinquième jour d'une campagne aérienne qui a fait plus de 220 morts et révélé de nouveau au grand jour l'impuissance internationale face au conflit. Salwa Jafari.
Encore une fois, des images choquantes, des corps d'enfants gisant sur le sol de cet hôpital de Erbil. Des cris de souffrance sans fin. Dehors, les secouristes s'affairent, débordés. On a du mal à voir tellement le nuage de poussière est épais. Les bombardements ont visé plusieurs localités de la vaste région de la Ghouta orientale, proche de Damas, et dans laquelle sont assiégés quelques 400 000 habitants, dont la situation est très préoccupante. Malgré ces violences dévastatrices, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas réussi jeudi à appuyer l'appel à une trêve humanitaire réclamée par les agences de l'ONU pour permettre la livraison d'aide d'urgence. Depuis lundi, 229 civils, dont 58 enfants, ont péri dans le déluge de feu déversé par le régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon Save the Children, plus de 4000 familles de la Ghouta orientale vivent désormais dans des caves et des bunkers. Les enfants sont affamés, bombardés et piégés. Le siège signifie qu'ils n'ont nulle part pour fuir, ajoute l'organisation.
Les Nations Unies sonnent l'alarme. Les demandeurs d'asile en Grèce sont confrontés à des faits de violence et de harcèlement sexuel largement répandus dans les centres bondés aux conditions d'accueil misérables. Selon Cécile Pouilly, porte-parole du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le véritable nombre de cas enregistrés en 2017 est probablement plus élevé que les 622 rapportés, reconnaissant que le commissariat n'avait qu'une vision très partielle de ce qu'est la réalité. Le groupe Sainte-Marthe, formé au printemps 2014, réunit des chefs de la police d'une trentaine de pays et des responsables de l'Église, et il a pour objectif de lutter contre le trafic d'êtres humains et les formes modernes d'esclavage. Le groupe a évalué à 42 millions le nombre de personnes dans le monde victimes du trafic d'êtres humains. Il attire également l'attention sur l'esclavage qui sévit encore largement sur les 4,4 millions de bateaux de pêche. Les participants à cette conférence ont été reçus en fin de matinée en audience par le pape François. Ils ont notamment insisté à cette occasion sur la nécessité de continuer à inviter les gouvernements à offrir une réponse humaine aux victimes et aux survivants du trafic d'êtres humains. Les organisateurs en avaient fait l'une de leurs promesses. Les JO d'hiver 2018 de Pyeongchang seront ceux de la paix dans une Corée du Sud qui n'est pas en odeur de sainteté avec son voisin du Nord. La promesse a été tenue, le point de la cérémonie d'ouverture avec Yacouba Ouédraogo.
Tout a commencé par cette image historique, une poignée de main entre Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et Moon Jae-in, président de la Corée du Sud. Kim Yo-jong devient du coup la première membre de la dynastie régnante de Corée du Nord à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Autre symbole fort de la cérémonie d'ouverture, le passage en commun des sportifs des deux pays dont les tenues indiquaient seulement le mot « Corée » dans le dos. Vous allez tous nous inspirer pour vivre en paix et en harmonie, malgré nos différences, a souligné Thomas Bach, président du Comité olympique international. Puis Moon Jae-in a lancé, je cite, « Je déclare les Jeux olympiques de Pyeongchang ouverts. » L'heure précédant l'ouverture a été moins conviviale, le vice-président américain Mike Pence ayant esquivé le dîner organisé en amont. Banni de ces Jeux d'hiver pour dopage institutionnalisé, la Russie peut néanmoins compter sur 168 de ses représentants qui ont défilé sous la bannière olympique. Plus de 2900 athlètes représentant 92 États ou délégations vont se disputer les 102 titres décernés dans 15 disciplines, et ce jusqu'au 25 février.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Eric Manirakiza.
Aux États-Unis, Amazon lance dans les prochaines semaines son propre service de livraison baptisé Shipping with Amazon, livré avec Amazon, SWA en sigle. Amazon entend concurrencer FedEx, UPS, DHL et Chronopost et proposer des tarifs beaucoup plus bas que les prix appliqués. Le cybermarchand veut ainsi réaliser des grosses économies en se passant des services des intermédiaires. En Côte d'Ivoire, la compagnie canadienne Endeavour, qui exploite la mine d'or d'Agbaou, a conclu un accord avec la population locale pour mettre fin à des manifestations qui bloquaient ses installations. La société a accepté de former et d'embaucher une centaine de jeunes locaux. Depuis 5 ans, elle a versé plus de 6 milliards de francs CFA de compensation à plus de 1100 agriculteurs et propriétaires fonciers et 1,5 milliard à un comité local de développement pour financer des infrastructures routières, d'éducation et de santé. Des indemnisations financières supplémentaires devraient aussi être versées. La RDC veut porter à 10% la taxe sur les métaux stratégiques dans son nouveau code minier. Le cobalt, qui est convoité par les fabricants de smartphones et de voitures électriques, est surtout concerné. Le boom mondial des nouvelles technologies a provoqué une flambée des prix du cobalt de plus de 127% en un an. Son prix est passé de 75 000 à 81 250 dollars la tonne à la Bourse des métaux de Londres. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt.
À présent avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Football, le tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération se joue ce week-end à travers l'Afrique.
Et oui, moins d'une semaine après la clôture du CHAN 2018, une nouvelle campagne de compétition interclub africaine qui débute ce week-end avec les tours préliminaires. C'est la Coupe de la Confédération qui donne le premier coup d'envoi ce vendredi entre le 11 créateur, le club malien, et le CR Belouizdad, le club algérien. À noter que le club du Djoliba est d'ores et déjà qualifié après le retrait du club libyen d'Eloi United. À suivre samedi, Énergie du Bénin contre Afia de Guinée, le Manga Sport du Gabon face au Maniema Union de la RDC, l'Olympic Star du Burundi face à l'Étoile Filante du Burkina Faso, et puis les New Stars du Cameroun contre Deportivo Niéfang, c'est un club de Guinée équatoriale, et puis la Estanda, le club ivoirien, contre le CS La Mancha, club congolais. Dimanche, l'APR du Rwanda contre Anse Réunion, un club des Seychelles, et puis Asante Kotoko, le club ghanéen, contre le Kara du Congo, le RC Berkane, club marocain, contre Mbour Petite Côte, c'est évidemment un club sénégalais, l'Africa Sport de Côte d'Ivoire contre le FC Nouadhibou de Mauritanie.
La Ligue africaine des champions aussi reprend ses droits.
Le tour préliminaire également, samedi la C Léopard de Dolisie contre la S Togo Port de Lomé, le Rai Club Kadiogo, le club burkinabé contre le CF Mounana, et puis les forces armées nigériennes contre le Oroya de Guinée. Enfin, le club sénégalais de Génération Foot contre Misr Makassa d'Égypte.
Ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 2018 en Corée du Sud. Qu'attendre pour l'Afrique, Nicolas ?
Ce sont les 23e Jeux Olympiques d'hiver ouverts en Corée du Sud avec une belle cérémonie d'ouverture. On rappelle 8 pays africains au total, une participation inédite dans toute l'histoire de ces Jeux. À suivre ce vendredi les épreuves de ski alpin, de curling et de luge.
Et puis on se quitte avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Celtics de Boston se sont rassurés en s'imposant après prolongation face aux Washington Wizards 110 à 104. Du côté de la conférence Ouest, Golden State s'est relancé en battant la Lakers.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. À Djibouti, lancement aujourd'hui de la campagne des législatives qui auront lieu le 23 février, les premières du genre depuis la crise électorale de 2013. Ce scrutin, qui permettra de renouveler les 65 membres de l'Assemblée nationale du pays, comporte quelques nouveautés dans un contexte où l'opposition est divisée. Pour un décryptage de la situation, Raissa Girondin a joint Houmed Daoud, porte-parole de l'Union pour la majorité présidentielle en Europe.
L'effet marquant de cette élection, de ces élections législatives de 2018, c'est que les femmes seront représentées à hauteur de 25% au sein de la représentation nationale. Elles passent de 10 à 25%. Et puis aussi, ça a été les recommandations des chefs d'État et de gouvernement du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba du 28 et 29 janvier dernier.
Mais alors que s'engage la campagne pour les législatives, l'opposition absente ou divisée?
L'opposition, elle est perdue. Comme d'habitude, l'opposition n'a jamais été véritablement crédible auprès des Djiboutiens que nous sommes, dans la mesure où elle n'a jamais eu le minimum de sens de l'organisation. Donc le hasard n'a pas de place quand on cherche à prendre en charge les destinées de tout un pays, de tout un peuple.
Mais pourquoi, selon vous, le MRD, le principal parti d'opposition, ne peut pas participer à cette bataille électorale?
Écoutez, le MRD n'a pas d'existence légale, dans la mesure où ça c'est une affaire de justice aussi. Ce mouvement a été dissous.
Pourquoi?
Et puis les responsables de ce mouvement ont saisi la justice, l'instruction est en cours. Tant que les choses n'ont pas été définitivement bouclées au niveau de la justice, je ne peux pas me permettre de commenter les décisions de justice ou le dossier en cours d'instruction, madame.
Suite à la crise post-électorale en 2013, il y a un accord cadre qui a été signé entre le pouvoir et l'opposition pour avoir une CENI, la Commission électorale nationale indépendante, permanente et paritaire. Ce n'est pas un des points qui est discuté avec ce principal parti d'opposition?
Écoutez, l'existence de la CENI est utile uniquement pour la période électorale. Pourquoi dépenser de l'argent, jeter de l'argent par la fenêtre hors période électorale? Oui, ça coûte de l'argent. Nous n'avons pas d'argent à jeter par la fenêtre. Les Djiboutiens ont d'autres priorités, le gouvernement a d'autres priorités. Dans cette commission, les uns et les autres sont représentés. Et d'ailleurs, il y a des observateurs internationaux qui sont là et validés. Ces élections ont toujours été crédibles. Au lieu dans la transparence absolue, madame.
Pensez-vous qu'il y aura un éventuel engouement de la population face à ces élections législatives?
Écoutez, la population de Djibouti est en règle générale à moins de 25 ans, essentiellement jeune. Et puis aussi, la politique du gouvernement, la politique tracée par le chef de l'État, accorde une priorité aux femmes et à la jeunesse djiboutienne. Et puis, enthousiasme général, nous dit-on, depuis Djibouti, grâce à cette initiative qui a fait qu'il y aurait 25% de femmes au sein de la représentation nationale.
C'était Houmed Daoud, porte-parole de l'UMP en Europe, joint à Paris.
Bonjour à tous, c'est Kiabadou avec vous. Je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. Mercredi à Bamako, les auteurs présumés d'un viol collectif ont été arrêtés grâce à la vidéo de l'agression qui circulait sur Facebook et WhatsApp. Que pensez-vous de la dénonciation des crimes sur les réseaux sociaux? Estimez-vous que les vidéos et enregistrements audio peuvent servir de preuve pour aider la justice? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33, 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Le deuxième forum africain pour la résilience réunit à Abidjan au moins 250 participants, parmi lesquels des experts, des académiciens, entrepreneurs et représentants des gouvernements. La Banque africaine de développement, la BAD, entend débourser plus $1 milliard pour aider 10 000 communautés comptant chacune en moyenne 5 000 personnes. Pour comprendre comment elles ont été identifiées et les défis qui se posent, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le directeur du bureau de la coordination des États en transition, Sibri Tapsoba.
Nous avons donné des indicateurs de communautés il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'école, il n'y a pratiquement pas de route. Les indicateurs qui pourraient définir les environnements où il n'y aurait personne. Avec une technologie géospatiale, nous avons localisé des gens qui vivent dans ces conditions. Donc, en réalité, ces gens-là, comme nous on les appelle, ils sont les oubliés du processus de développement. Et c'est à ces gens-là que nous voulons apporter deux buts de solutions de développement, parce que ce sont ces gens les plus vulnérables. Et c'est au niveau de ces gens qu'un certain nombre de groupes vont chercher la main-d'œuvre terroriste.
Est-ce que les solutions envisagées à Societel, les communautés bénéficiaires?
Au niveau de la Banque africaine de développement, on est en train de lancer un grand programme, un vaste programme, 10 000 communautés à 1 000 jours, où nous allons amener l'énergie off-grid, c'est-à-dire solaire ou autre chose, hydroélectrique, et de l'eau. Et pour faire ça, il faut identifier les communautés, donc il faut les associer, il faut former les communautés, il faut les encadrer. Donc, on ne peut pas faire ça pour les communautés, il faut faire ça avec les communautés.
Quels sont les défis auxquels font face les parties prenantes?
Les défis sont changeants, mais sont constants en même temps, parce qu'on a des défis qui sont liés à la faible capacité des pays qui ont la bonne volonté et qui veulent faire des changements, mais qui n'ont pas les capacités nécessaires. Ça, c'est un. C'est aussi l'absence de ressources. Mais d'une manière générale, quand on a des idées, on peut avoir des ressources. Et évidemment, il y a des questions de gouvernance qu'il faut aussi souligner. Donc, il y a des défis qui sont structurels qui sont là. Et puis, il y a des défis conjoncturels comme ceux liés à la sécurité qui viennent de se manifester. Défis qu'on ne connaissait pas il y a 5 ou 6.
La région, comme le Sahel, c'est un casse-tête.
Ah oui, le Sahel, c'est un casse-tête, mais c'est une opportunité. C'est une région où si on arrivait à créer une dynamique où les communautés se sentaient partie prenante, on peut renverser ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais si on a des gouvernements et des partenaires au développement, y compris des pays amis, qui viennent se battre contre des ennemis dans un pays, c'est difficile. Il faut pouvoir intégrer la population. Et nous, on est confiants que l'implication qui se fait, le travail énorme qui se fait à ce moment-ci avec le G5 Sahel, mais aussi avec l'Alliance pour le Sahel, va porter ses fruits. Parce que ça implique les communautés et il y a réellement une capacité de faire bouger les choses et d'apporter des résultats.
Sibri Tapsoba, directeur du bureau de la coordination des États en transition auprès de la BAD.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est une première. Une délégation de start-up africaines présente lors de la dernière édition du CES, le Salon mondial de l'innovation, à Las Vegas. L'une d'entre elles, Yélène Solar, a pu présenter son produit phare, la Solar Box, un générateur composé d'un lampadaire LED et d'un panneau solaire. Notre correspondante à Bamako, Founé Diarra, est partie à Ngolobougou pour en savoir plus. Le récit est de Raïssa Girondin.
C'est à Ngolobougou, à quelques kilomètres de Bamako, qu'Abdoulaye Gakou a installé le prototype de sa Solar Box, un dispositif mobile 2 en 1 qui fonctionne à l'énergie solaire et permet d'avoir une source d'énergie adaptée aux différents appareils du quotidien comme un téléviseur, un téléphone portable ou encore une radio.
L'avantage que nous avons avec la Solar Box, c'est que son autonomie est modulable. Nous nous adaptons aux besoins de la localité. Ce qui veut dire que nous faisons ce qu'on appelle un dimensionnement qui nous permet de déterminer le nombre de panneaux solaires et leur puissance, le nombre de batteries et leur capacité. Nous avons une autonomie aujourd'hui qui va de 6 à 24 heures.
Sa fabrication, explique l'ingénieur, est à la fois écologique et économique. Sans oublier l'aspect pratique pour les travailleurs de la Terre.
Pour s'installer en brousse, sans éclairage, ce n'est pas évident. L'intérêt d'avoir un appareil comme la Solar Box est crucial. Plusieurs tâches peuvent être accomplies une fois la nuit tombée, et ce, facilement. Le générateur est grand, donc il peut éclairer plusieurs endroits.
Au Mali, seuls 15% des zones rurales sont électrifiées. La Solar Box entend bien combler ce déficit. Ce soir, dans l'Amérique et vous, l'esclavage aux États-Unis. Le mois de février est dédié à l'histoire des Noirs, ici aux USA, le Black History Month. L'occasion de revenir sur la traite des Africains en Amérique du Nord. Quelles sont les spécificités de l'esclavage aux États-Unis ? Comment se sont-ils retrouvés aux USA ? Pour participer en direct, laissez vos commentaires et interrogations sur la page Facebook de VOA Afrique ou réagissez en direct en appelant le 001 202 205 26 33. Morgane Guiriec en votre compagnie. Rendez-vous à 19h temps universel sur VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, après un shutdown de plus de 8 heures, le Congrès est arrivé à un accord budgétaire, même si certains démocrates et républicains restent frustrés par les compromis consentis. Ce texte, ratifié par Donald Trump, prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'administration fédérale, en attendant que les élus transforment cet accord budgétaire ponctuel en proposition de loi pérenne. Yacoub Abré Ouedraogo a joint le professeur Richard Conley, enseignant de sciences politiques à l'Université de Floride.
C'est un projet de loi qui prolonge pour quelques semaines le budget américain parce que du point de vue constitutionnel, on ne peut pas continuer à gouverner sans l'argent nécessaire. Donc c'est ça le problème. Et on n'est pas d'accord sur un grand plan, soit annuel ou 6 mois ou 3 mois. Et maintenant, le problème, c'est que cette situation d'immigrants illégaux est là-dedans et les démocrates veulent un accord sur le sujet. C'est difficile de résoudre.
Est-ce que les démocrates ont pu obtenir justement une entente avec les républicains sur la situation des migrants arrivés jeunes aux États-Unis, les Dreamers?
La date limite imposée par le président, c'est le 5 mars, je pense.
Tout à fait, c'est le 5 mars.
On a moins d'un mois de résoudre ce problème. Il est possible que le président prolonge cette date limite, mais vraiment, du point de vue objectif, la situation des immigrants n'est pas connectée au budget.
Qu'est-ce que les républicains gagnent dans l'accord qui a été obtenu avec les démocrates?
Pour la part des républicains, le selling point, le point de vente, là, c'est le militaire. Parce que le problème pour le militaire, c'est qu'on a des engagements à l'étranger et on n'a pas de budget. Il est très difficile de prévoir. Maintenant, on a un budget qui protège le militaire. C'est peut-être le plus grand gain pour les républicains. Mais autrement, le problème, ça reste toujours le déficit budgétaire et la dette qui monte. 21 milliards de dettes, ça c'est très difficile pour les conservateurs d'accepter.
C'était une promesse de campagne pour Donald Trump d'augmenter le budget des militaires.
Oui, bien sûr. Pour lui, c'est peut-être un gain. Mais le problème toujours, c'est qu'on dépense beaucoup plus d'argent qu'on a dans les coffres du gouvernement.
Et qu'est-ce que les démocrates, eux, gagnent dans cet accord qui a été trouvé avec les républicains?
Je pense que les démocrates croient que peut-être cette bonne volonté d'avoir un budget maintenant peut persuader le président et les républicains d'arriver à un compromis pour les immigrants illégaux, des enfants, etc. C'est risqué. Hein.
Les démocrates disent avoir obtenu une hausse des dépenses non militaires, notamment la lutte contre la drogue et autres.
Les dépenses pour la crise des drogues, c'est 6 milliards de dollars. Donc, c'est pas très grand vis-à-vis le militaire.
Les républicains ne sont pas tout à fait satisfaits. Les démocrates aussi ne sont pas tout à fait satisfaits. À quoi les uns et les autres s'attendaient?
Le problème maintenant, nous avons des élections en novembre, donc il reste à voir comment les républicains et les démocrates au Congrès peuvent vendre ce marché aux électeurs.
C'était le professeur Richard Conley, joint en Floride, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Loumami, assisté de Dan Crafton. Je suis Anastasie Tudiesch. Pour l'actualité 24h sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook également. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Vous êtes
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.